Intersection.
Intersectionnel.
La pluralité des luttes, la pluralité des engagements.
Vendredi, on sera le 17 mai. Le 17 mai, c'est la journée internationale de lutte contre la LGBTI-phobie. Pourquoi ? Parce que le 17 mai 90, l'OMS a retiré l'homosexualité de la liste des maladies mentales. Alors oui, c'est vrai, 1990, c'était il y a bien longtemps. Mais si je vous dis que la transidentité, c'est en 2019 qu'elle a été retirée de la même liste, peut-être que vous voyez mieux l'enjeu. Surtout que récemment, on a vu que tout pouvait reculer assez vite. L'Observatoire de la Petite Sirène, Hypomonie, le duo Moutostern, on a eu droit récemment à une offensive transphobe d'une rare violence avec une loi qui doit être présenté à l'Assemblée nationale le 28 mai prochain et qui vise à interdire les transitions sociales et les bloqueurs de puberté avant 18 ans. On roule vers l'effondrement climatique en mode don't look up. Il y a une guerre en Europe et un génocide en cours en Palestine et les rageux de droite et d'extrême droite, c'est quoi leur urgence ? Emmerder les personnes trans. Les wokistes veulent transformer vos garçons en petites filles et les réseaux sociaux répandent l'épidémie transgenre dans les cerveaux de nos ados. Ouh. Nous sommes une épidémie, répondait Paul B. Preciado en inversant le stigmate. Dimanche 5 mai en France, dimanche 5 mai dernier, plus de 10 000 personnes sont descendues dans la rue pour défendre les droits des personnes trans. Et vendredi 17 mai, c'est toutes les LGBTI-phobies qu'on va défendre parce que des droits, il y en a encore plein à conquérir et que surtout les rageux de la fachosphère, il faut pas leur céder un pouce. Oui, nos désirs font désordre, nos genres sèment la pagaille et avec un peu de Marx, un peu de Beyoncé et beaucoup de trans de Gwyn et de PD, on va continuer à vous empêcher de patriarcaliser en rond. Mon corps, mon genre, et ferme ta gueule.
Vous êtes bien sur Radio Alpa 107.3 et vous écoutez Intersection, mais en escalade parce que ce soir, on est au cinéma Le Royal et pas au studio de la MJC Prévert.
Oui, on remercie Radio Alpa d'avoir organisé la régie mobile, Romain Alinon d'assurer la technique, merci Romain. Et puis Mathieu Magnodet qui est avec nous, salut Mathieu.
Bonjour.
On est super content de t'avoir avec nous, donc tu es journaliste à Mediapart, les abonnés de Mediapart te connaissent bien, ils ont peut-être entendu ce son régulièrement.
Salut, CNews est une chaîne d'extrême droite. CNews est une chaîne qui désinforme. CNews est une chaîne d'extrême droite qui désinforme. C'est à l'air libre, l'émission en accès libre de Mediapart.
Voilà, parce que tu présentes à l'air libre l'émission en direct de Mediapart. Tu as été correspondant aux États-Unis pendant le mandat de Trump. Et tu es cofondateur de l'association des journalistes LGBT. À Mediapart, t'écris en particulier, mais pas seulement, sur les sujets LGBTQIA+, t'écris aussi sur les États-Unis, sur le mouvement social, sur Gaza.
Ouais, voilà, j'écris sur beaucoup de choses qui traversent le monde d'aujourd'hui. Je fais des émissions, j'écris sur beaucoup de sujets, et aussi je m'intéresse beaucoup, et les États-Unis m'ont beaucoup aidé à prendre conscience de ça d'une certaine façon, à ce qu'on peut résumer par ces sortes de guerres culturelles dont vous parliez, dont l'offensive transphobe est vraiment un des éléments parmi d'autres, voilà, des fractures comme ça qu'on veut créer au sein de la société pour nous antagoniser et nous diviser.
Et au début de l'année, donc quand on avait pris contact, je t'avais dit vos papiers presque quotidiens là pendant l'époque de Oudéa Castéra avec la polémique sur le lycée Stanislas, le lycée privé ultra-réac Stanislas, avec notamment David Perrotin qui suivait ça plus que toi, je crois.
David Perrotin, Mathilde Gohanec, toute l'équipe du pôle société, ouais.
Et je pense que vous avez joué un rôle quand même central dans comment dire, cette polémique. Et à mon avis, vous faites partie de ceux qui ont contraint la ministre à se barrer, quoi.
Elle s'occupe des Jeux Olympiques maintenant.
Voilà, mais c'est pas barré complètement. Mais donc voilà. Donc pendant cette escalade, on va évoquer plusieurs sujets. D'abord, celui pour lequel t'es venu, c'est-à-dire Guet-apens, le documentaire de Mediapart. Et puis on va évoquer également cette offensive transphobe. Mais avant, on va faire une petite pause musicale et on va écouter Kid Ismail, House of God.
God of all weary years, God of all silent tears, we're here together today, thankful of the gift of life in spite of the hate present in this world. Remind us of the goodness of people and give us the strength to do the work of justice, to be a body of
houses, in prisons, in offices, on mountaintops, and in classrooms, in locker rooms, and in churches. He's the creator of all people, and all people are his children in one family.
Donc vous venez d'entendre Kiddy Smile, House of God, c'est un titre de 2018 je crois. Et donc on va parler de Guet-apens avec Mathieu Magnodex qui est arrivé par le train de 19h25. Guet-apens, c'est le premier documentaire entièrement réalisé par Mediapart et il a été réalisé en 2023 l'année dernière. T'es un des co-auteuristes avec Sarah Brett qui était venue l'an dernier au cinéaste et David Perrotin. Voilà. Guet-apens, comme son nom l'indique, ça raconte comment des homosexuels sont attirés dans des pièges par le biais d'applications, de sites de rencontres. Ils sont humiliés, frappés, parfois tués dans le plus grand silence, d'où le sous-titre qui est d'ailleurs des crimes invisibles. Peut-être on va écouter la bande-annonce et après on en parle.
Je discutais sur une application avec un jeune homme. On s'est dit que là, on allait se rencontrer. Au moment où je suis sorti de ma voiture, j'avais 3 personnes qui m'attendaient et on m'a roué de coups.
Je me suis retrouvé donc encerclé par des individus qui me frappaient le visage à coups de pied et à coups de poing.
Franchement, tu vas voir, franchement, tu vas kiffer avec moi, franchement.
Arrêtez-moi, tu flippes, hein.
Il me filmait pendant que son collègue est en train de me tabasser. Dis que tu es PD, dès que tu es PD.
Quand on imagine le casseur de PD, on pense à un skin néo-nazi avec des tracts homophobes sur lui. En fait, il faut penser l'homophobie et la gayphobie comme quelque chose de beaucoup plus transversal, de beaucoup plus banalisé.
Nous avons recensé au moins 300 victimes de guet-apens depuis 5 ans. Plus d'une par semaine.
J'ai La Rochelle, j'ai Montpellier, Montreuil, l'Oise, Paris, le Rhône. Globalement, ce type d'agressions ont lieu un peu partout sur le territoire national.
Quand on a commencé à rentrer dans le détail de la plainte, moi, j'arrêtais pas de leur dire qu'il y a un caractère homophobe. Et eux, catégoriquement, non, c'est pas homophobe.
Parfois, on a la sensation que certains juges, en fait, se fichent de cette circonstance aggravante. Et là, c'est rageant.
Moi, je dirais que la justice fait pas du tout attention aux victimes. C'est parce que je suis gay que j'ai été poignardé.
On a vu 2 homosexuels en plein acte et on les a tapés.
Ce qu'on a vécu, nous, c'est de la négation de notre humanité.
Voilà, donc c'est la bande-annonce et effectivement, il faut être un petit peu préparé avant de le regarder parce que c'est violent, ça parle de sujets violents. Et voilà, la première question qu'on avait envie de vous poser, c'était qu'est-ce qui vous avait amené à vous intéresser à ce sujet à Mediapart ?
Bah en fait, je pense que collectivement, journaliste de Mediapart, mais aussi moi, journaliste de Mediapart, qui à l'époque, après les débats, si on peut dire débats entre guillemets, autour du mariage des couples de même sexe, avait lancé d'ailleurs l'association des journalistes LGBT avec d'autres, Alice Coffin, Lucas Armati et d'autres, on a pu se dire, et nous et d'autres collectivement, que finalement pas mal de choses avaient été gagné, que des choses avaient avancé, que finalement cette loi, ces discussions avaient certes permis une offensive réactionnaire, mais qu'elles avaient permis une avancée des droits, qu'elles avaient permis une plus grande compréhension aussi et une plus grande, je mets entre guillemets ce mot aussi, avec lequel j'ai un peu de mal, tolérance. Et en fait, voilà, je pense qu'on était tous un peu là-dessus. Et on le redit d'ailleurs dans le documentaire 10 ans après. Voilà, pourtant, les violences continuent. Alors, comment ça s'est fait? C'est tout simplement que Sarah Brett, donc la co-réalisatrice du documentaire, avait travaillé déjà sur des affaires de guet-apens avant d'arriver à Mediapart, dans un précédent média, l'AFP, l'agence France Presse. Et puis, elle a continué à accumuler par-ci par-là quelques histoires. Et au bout d'un moment, a été décidé de commencer à travailler vraiment sur ça. Et puis, ça devait être une enquête dans Mediapart. Et puis, ça s'est transformé en documentaire parce que on a eu beaucoup, beaucoup de témoignages, qu'on a vu qu'il y avait là pas seulement la persistance de ces violences, mais aussi leur invisibilisation totale par la société, par les médias, par la police, par la justice, donc par finalement une société entière qui dans toutes ses institutions et dans tout son corps social finalement se dit que tout ça n'existe plus. Il faut savoir que ce genre d'attaque, ce genre d'agression qui sont un type d'agression qui là en l'occurrence concerne plus particulièrement des hommes gays cisgenres bisexuels ou gays, mais il y a plein d'autres types d'agressions évidemment qui concernent plus spécifiquement des personnes lesbiennes, des personnes trans, mais ce genre d'agression, c'est vieux comme l'histoire de l'homosexualité, c'est-à-dire que piéger des gens sur des lieux de rencontre, voilà, c'est la mort de Pasolini, hein, sur la plage en Italie.
Oui, c'est donc, ce que faisait la police française au 19e siècle, en fait, en piégeant les homosexuels.
Donc on a toujours piégé les homosexuels, soit pour les attaquer, soit pour les punir, voilà. Et donc, et c'est d'ailleurs ce qui se continue de se faire dans certains pays, voilà, où l'État cible les homosexuels sur des applications de rencontres. Donc tout ça est vieux, mais ce qui nous a surpris, c'est le fait que finalement tout ça persistait. Alors peut-être avec une intensité, un volume peut-être différent par rapport à avant, et encore, on peut pas vraiment dire, puisque de toute façon, les statistiques là-dessus n'existent pas du tout. Et il faut savoir que par exemple, le ministère de l'Intérieur, qui est officiellement chargé du recensement des délits et des crimes homophobes, en réalité, n'a personne pour les comptabiliser vraiment et pour faire en sorte qu'il y ait une vraie politique mise en place au sein de ce ministère pour lutter contre l'LGBT-phobie. Donc vraiment, ce côté des crimes invisibles, ils sont invisibles aux yeux de tous, aux yeux de tout le monde, et parfois même aussi dans, c'est vrai, nos communautés, les communautés LGBT, tout simplement parce que bah, c'est vrai qu'on n'a pas envie de se dire qu'on est toujours dans la même situation. Or, moi, en faisant ce documentaire, j'ai été frappé par le fait que j'ai rencontré beaucoup d'amis ou d'amis d'amis qui me disaient « Ah, moi aussi ». Hein, et ça me fait penser, voilà, ça nous fait penser à d'autres, à d'autres moi aussi en réalité.
Ouais. Justement, tu le dis très bien quand tu le présentes, et c'est quelque chose qui saute aux yeux tout de suite quand on voit le documentaire. C'est que ce qu'on comprend très vite, c'est qu'il s'agit pas du tout d'une série de faits divers qu'on mettrait bout à bout, mais bien la dénonciation d'une homophobie protéiforme structurelle. Comment est-ce que vous avez réfléchi à ce risque fait divers et est-ce que vous avez réfléchi à comment vous alliez le dépasser?
Ben en réalité ces crimes, ces délits sont traités souvent, encore aujourd'hui, bien trop souvent dans la presse, la presse régionale, mais pas seulement, comme des faits divers. Donc en fait, ils sont en page 12, on comprend pas vraiment ce qui se passe, le caractère homophobe, éventuellement homophobe, ou l'homosexualité de la victime n'est pas nommé. Et donc on a des cas, encore récemment à Clermont-Ferrand, dans la montagne, pour pas la citer, en fait l'histoire, c'est un jeune homme qui s'est fait piéger sur un site de rencontre et quelqu'un est venu le tuer chez lui, c'est ça l'histoire, et c'était raconté comme un jeune homme est mort. Voilà. Et ça reste encore aujourd'hui la réalité. Donc justement, le problème, c'est que tout ça est traité comme des faits divers, qu'il n'y a jamais de vision globale sur ces faits divers, sur ces situations qui sont donc traitées comme des faits divers, et que voilà, ça ne permet pas de montrer qu'il y a là la permanence de violences faites à l'égard de ces victimes.
Et comment t'expliques l'attitude des institutions, de la police, de la justice, etc. Parce que normalement, il y a des, tu l'as dit, on a avancé, il y a l'homophobie est une circonstance aggravante, la transphobie aussi, dans la loi, depuis, je crois, 2017. Donc, après, il y a la question de comment les lois, elles sont effectives, mais on a un arsenal législatif qui permettrait de dire que c'est derrière nous, ça. Et pourtant, les institutions, elles continuent de... On le voit bien dans le documentaire, c'est, je trouve que c'est un
des aspects intéressants. Alors, je pense que ça s'explique par plusieurs aspects. Il y a d'abord un aspect qui est, je dirais, avant les institutions, qui est la société, c'est-à-dire que les victimes elles-mêmes, elles ont honte, souvent, parce qu'elles ont honte à cause de l'homophobie, d'une certaine façon, et de l'homophobie de la société. Donc c'est difficile de se dire victime d'homophobie, c'est difficile de dire qu'on a utilisé des applications de rencontres pour faire des rencontres sexuelles, c'est difficile à Paris, dans les grandes villes, et c'est difficile encore plus dans d'autres endroits en France. Donc d'abord il y a ça, et donc du coup trouver les chemins, l'espace et le courage pour finalement se dire victime de ça. Et puis il y a une banalisation justement aussi de ces victimes, de ces faits de violence d'une certaine façon, puisque en fait, moi je vous cite juste un seul exemple, on a demandé une interview à la ministre qui à l'époque était chargée de l'égalité homme-femme pour ce documentaire, et sa conseillère presse m'a fait lanterner, et puis un jour elle m'a dit mais ça a toujours existé. Donc comme s'il y avait une banalisation, comme si c'est normal en fait. C'est normal de se faire taper quand on est gay, voilà. Et donc la société elle intègre d'abord ça. Et puis ensuite, les gens qui sont dans les institutions, ils sont à l'image de la société. Nous on a été frappés de constater que dans certains dossiers, des policiers ont fait un travail exceptionnel d'enquête. Révélant parfois 10, 20, 30 victimes potentielles de la part d'une même bande qui opérait un peu comme ça pour piéger des gays dans certaines villes. Et puis parfois l'accueil est déplorable, l'enquête est déplorable, et évidemment quand vous commencez par une victime qui est mise en difficulté lors d'une prise de plainte et que derrière le dossier est pas très ficelé, quand ça arrive à la justice, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Et puis derrière, l'institution judiciaire, elle est d'abord comme la police d'ailleurs, en manque de moyens, et c'est d'abord un aspect très important. Cette idée que c'est difficile en réalité de prouver l'homophobie, qu'il va falloir faire des procès longs, qu'il faut trouver les preuves. C'est vrai qu'on est dans un système, et heureusement judiciaire français, où on ne condamne pas quelqu'un comme ça sans essayer de chercher des preuves. Mais on va se dire que peut-être les institutions ne font pas tout pour chercher ce qui pourrait relever de l'homophobie là-dedans. Souvent, par exemple, on a vu une avocate pour le documentaire, on l'a pas gardée dans le montage final, une avocate qui m'a dit, d'ailleurs, qui défendait des agresseurs, qui avait défendu en l'occurrence un agresseur de guet-apens, et qui nous a dit, moi j'en peux plus quand la question qui est posée par l'institution, soit la police, soit la justice, à mon client, c'était est-ce que vous êtes homophobe ? Qui va répondre ? Est-ce que vous... Oui, à cette question, est-ce que vous êtes homophobe ? C'est pas ça la question. La question, c'est de savoir s'il a déjà ciblé d'autres personnes avant, pourquoi il s'en prenait à ces personnes, etc. Et donc, je pense que de la même façon que la société est mal à l'aise encore avec l'homosexualité, les institutions sont mal à l'aise, restent mal à l'aise avec l'homosexualité. Des choses changent. Il y a des personnes plus jeunes, il y a des personnes qui comprennent les enjeux. Ça change, mais ça change très lentement.
Ouais, y compris à l'école. Enfin, cet après-midi, on faisait un stage sur l'LGBTI-phobie dans l'éducation, et on voyait à quel point l'institution, alors elle publie des textes, des circulaires en disant l'école est inclusive, l'école ici, on peut être soi-même, etc. Mais dans les faits, en fait, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de personnel formé.
On est dans une offensive, on va en parler, mais dans une offensive réactionnaire qui fait que quand on a essayé, après le mariage, quand la ministre, en l'occurrence Najat Vallaud-Belkacem, avait essayé au moment du mariage des couples de même sexe de parler de genre à l'école, eh bien, il y avait une offensive réactionnaire. En fait, ce qu'il faut pas oublier, c'est ce terrain-là. C'est-à-dire que, en fait, la leçon qu'on a tirée du mariage pour tous, peut-être encore une fois collectivement, et c'est un « on » qui n'existe pas vraiment, mais en tout cas, voilà, c'est de dire que les choses vont mieux. En réalité, ça a déclenché une offensive réactionnaire qui est elle-même complètement connectée avec une offensive réactionnaire plus globale, européenne et mondiale. Et que du coup, nous avons aussi en ce moment le contre-coup de ça. D'ailleurs, le dernier rapport de SOS Homophobie vient de sortir et fait état d'une augmentation très forte des violences. Mmh. Et donc,
c'est ça, dans l'histoire des luttes, ça a toujours été le cas pour le coup. Enfin, quand on obtient des droits, ça augmente
le backlash.
Il faut lutter en fait. Il faut peut-être que des associations plutôt LGBTQIA+, on prenne conscience, parce que j'ai l'impression que là-dessus, on en est plutôt à des slogans consensuels. Enfin, moi j'étais à une réunion de préparation de la Marche des Fiertés, j'ai l'impression que dans les assos LGBTQIA+, on aime bien les choses pas trop clivantes, il faut pas faire peur, il faut en appeler à la tolérance.
Oui, je pense que là il y a une évolution parce qu'on voit bien que c'est un enjeu politique en fait très important et que du coup les droits ne sont pas acquis et que pour moi le documentaire il montre aussi autre chose, c'est-à-dire que il montre aussi les différentes facettes de l'homosexualité telle qu'elle se vit. En réalité, dans notre documentaire, on a des gens qui sont out dans leur vie, qui sont victimes, et puis on a aussi des gens qui se cachent, des gens qui ne voulaient absolument pas témoigner, parce qu'ils ne voulaient absolument pas, même de façon anonyme, dire qu'ils étaient homosexuels, qu'ils avaient été victimes, parce qu'ils avaient peur qu'on les reconnaisse le bout de leur nez ou le bout de leurs cheveux, même si on mettait une lumière spéciale qui permettait qu'on voit rien, vous savez, comme dans les autres documentaires. Et donc, ça nous dit beaucoup de choses sur le fait que cette culpabilité ou cette homophobie, finalement, de la société qui se répercute sur soi, elle est encore très prégnante. Et donc, ça aussi, c'est un indicateur de là où nous en sommes en réalité. Et je dis ça, et je dis qu'en même temps, des choses progressent non seulement aussi, et que quand même, c'est pas le documentaire n'est pas fait pour désespérer les gens. Il est fait pour conscience que politiquement il y a des backlashes comme tu dis, mais que c'est bien aussi de se connecter avec d'autres personnes de la communauté. C'est bien aussi d'essayer d'être soi le plus possible et que ça peut aider aussi dans ce genre de cas qui ne se passe pas heureusement pour chaque personne gay évidemment, de trouver des ressources, des forces pour pas se sentir seul.
Et puis pour combattre une homophobie structurelle, il faut avoir conscience de cette structure et c'est bien ce que permet votre documentaire.
On peut rappeler le numéro de SOS Homophobie si on est victime ou témoin d'actes homophobes, 01 48 06 42 41. Et il y a une ligne d'écoute de Stop Homophobie, 07 71 80 08 71. On va marquer une pause, on va écouter Eddie De Preto, j'ai choisi ça parce que c'est celui qui est la voix off en fait du documentaire. Et donc on va écouter Normal.
Merci.
Penses-tu que je suis responsable? Penses-tu que tu sors du tas? Penses-tu mais pour qui tu te prends? Je crois ça, t'es juste insultant. Tiens, pour une fois, reste sans voix et rassure-toi, je ne contamine pas. Puis assure-moi qu'avec ton petit minois, tout restera simple et courtois. Non, ne m'accuse pas, me descends pas de pédéraste jusqu'au bout des doigts. Si tu veux crier que tu es plus fort que tout, sans rouge vernis et fard à joues, tu tentes de me tuer de tes remarques, de me vider à coups de hache. Mais jeune homme, sais-tu seulement que je me maquille pour te rentrer dedans? Ça y est, ça te glace le sang. Que tu sois gars ne soit qu'un minime détail, que tu sois charme tout presque comme une dame. N'en donne pas ton âme au diable. Et le pire, fais attention garçon, faire joujou dans ton petit pantalon peut me provoquer de fines réactions. Allez tourne-toi, dégage, que je tape le fond. Je suis complètement normal, complètement banal. Je suis complètement normal. Je suis con, tellement malade. Je suis complètement normal, complètement banal. Je suis complètement normal. Je suis con, malade. Oups, pardon, j'ai eu tort. D'habitude, je mets des gants. J'ai laissé mes manières dehors. Pour un mec comme moi, c'est étonnant. Car oui, bon, je t'ai pas tout dit. Bienvenue là où tu peux faire ta comédie.
surtout jouer à faire ce que tu as envie. Attends de voir si ce soir tu me suis. Sinon insulte-moi et descends-moi de contre-nature ou la belle injure. Cette fois ça te coince, ça te stresse. Allez bouge et serre les fesses. Puis ne reviens plus voir avec tes gros sabots pour semer le fiasco en venant ici. En jetant des mots sans parcimonie, des grands mots qui font froid dans le dos. Car je suis complètement normal, complètement banal. Je suis complètement normal, je suis con, tellement malade. Je suis complètement normal, complètement banal. Je suis complètement normal, je suis con, tellement malade. Si tu veux que certains se font des nœuds de secours, d'autres fabriquent des cabanes de clous. Certains se cachent à travers la foule et d'autres avis bien le refoule. Alors si toi tu te sens beaucoup plus sain dans ta petite vie, ton petit train-train, saute-les toutes et trace ta route. Ne t'en fais pas, bel assassin. Je suis complètement normal, complètement banal, con, tellement malade. Complètement banal, complètement normal, complètement banal. Es-tu complètement normal, complètement banal, complètement normal, complètement banal.
Fin mars, il y a la sénatrice LR Jacqueline Eustache-Brinio qui a annoncé le dépôt d'une proposition de loi pour interdire la transition de genre pour les mineurs, qui faisait suite à un travail qui a été mis en place par une commission ad hoc du Sénat, une commission sur, pour enquêter sur la transidentification des mineurs. Ils ont rendu un rapport, ils ont fait une proposition, etc. Le gouvernement a annoncé tout de même qu'ils allaient voter contre, ce qui est une bonne chose. Mais du coup, le RN, dans la foulée, a annoncé qu'il déposait une proposition de loi similaire à l'Assemblée nationale. Histoire de dire, vous inquiétez pas LR, on est avec vous, team facho. Bref. Dans la foulée, il y a Marguerite Stern et Dora Mouto, qui sont en gros des influenceuses transphobes numéro 1. J'arrive même plus à les appeler TERF. Vous savez, TERF, c'est Trans Exclusionary Radical Feminist, donc féministe radicale qui exclut les personnes trans. Le problème, c'est que pour qu'elles soient TERF, faudrait déjà qu'elles soient féministes radicales. Donc je vais simplement les appeler les transphobes en chef. Dora Mouto et Marguerite Stern, les transphobes en chef françaises, ont annoncé la sortie de leur bouquin qui s'appelle Transmania. Alors ça nous a fait rire, parce que ça fait un peu Starmania, mais version trans. Plus comme dans Starmania, il y a un perso de meuf trans. Du coup, c'est encore plus drôle. Alors, le titre de leur bouquin, c'est « Quand l'idéologie transgenre s'infiltre dans toutes les sphères de la société » ou « L'histoire d'un des plus gros casse conceptuels du siècle, l'enquête événement » en librairie ou sur editionmagnus.fr. Du coup, non, pas en librairie, parce que du coup, Dora Mouto et Marguerite Stern font « ouin, ouin » parce que les librairies, elles veulent pas mettre notre bouquin. Bah désolé, mais les éditions Magnus, c'est des éditions d'extrême droite. Tu m'étonnes que toutes les librairies veulent pas mettre votre bouquin en vente, en fait. Bref.
Vous êtes bien sur Radio Alpa, nous sommes toujours en escalade avec Romain, Mathieu Magnodec, Stéphane, et vous venez d'entendre un extrait de Cassandre, la chaîne YouTube Cassandre, que je vous recommande sur toutes ces questions-là, et vous pouvez aller voir sa vidéo qui a un nom, je crois, sur les TERF pour creuser la question. Et donc, avec toi, Mathieu, on voulait creuser la question de l'offensive transphobe, donc ça nous permettait d'avoir une petite introduction sur l'actualité, là, de cette offensive.
Ça fait un peu plus d'un mois que Stern et Mouto, donc les autrices de Transmania, comme on l'a entendu dans le son, elles tournent sur les plateaux télé et font la promotion de ce livre qui est complètement transphobe. Qu'est-ce que tu penses de cette exposition médiatique et de ce qu'elle dit sur l'état de la transphobie en France aujourd'hui ?
En fait, je pense que c'est au-delà de la France, c'est-à-dire qu'elles ne sont que les avatars d'une campagne qui est en réalité déclinée dans plein de pays et plein d'endroits, qui est ce qu'on appelle une panique morale, c'est-à-dire qui est en l'occurrence là exploitée comme un filon éditorial, comme un filon politique avec cette proposition de loi LR tout à fait honteuse. C'est Tout simplement cette idée que aujourd'hui dans le monde qui est le nôtre, le cœur du problème serait l'existence de personnes qui veulent juste vivre leur vie selon le genre qu'il et elle ressentent et qui pas qui a été assigné à la naissance et qui représente de toute façon une petite partie de la société et quand bien même qui ne peuvent pas être responsables des guerres que nous vivons, qui ne sont pas responsables des inégalités économiques, qui ne sont pas responsables. Donc tout ça est un une grande diversion et tout ça est une volonté de s'en prendre. On peut plus s'en prendre en fait de la même façon aux gays et aux lesbiennes comme on pouvait le faire il y a quelque temps. La preuve, le Premier ministre est gay. On y reviendra après. Mais on peut s'en prendre aux plus fragiles de la communauté, de nos communautés. Parce que voilà, parce que c'est parce que ça reste encore des gens qui ont des parcours parfois très compliqués. Ça reste des gens qui, à cause justement du parcours de transition rendu très difficile, sont souvent dans une situation de précarité. Pas tout le monde évidemment, mais ça peut arriver. Et donc, on imagine qu'il va y avoir des défaillances du côté des communautés LGBT pour défendre les personnes trans. Et en fait, à ça, il faut affirmer au contraire que la défense aujourd'hui, je trouve ça fort d'ailleurs parce que les manifestations qui se sont passées ont complètement centré cette question, la défense des personnes trans, elle est au cœur du combat pour les autres lettres, si je puis dire, des communautés LGBT, mais aussi pour une grande partie des combats sociaux, en réalité. Parce que c'est reconnaître tout simplement que les uns et les autres, nous sommes les égaux et les égales des uns et des autres. Et donc, c'est vraiment central pour moi de considérer que c'est une question politique majeure et donc voilà, ces deux autrices en l'occurrence ne font que exploiter quelque chose qui se passe largement ailleurs aussi.
Et en plus, elles utilisent des arguments qui sont pas nouveaux. Les enfants qui sont en danger, l'épidémie, la contagion, tout ça, en fait, c'est des arguments qu'on a déjà entendus.
Ouais, ça c'est ça, assez fascinant. Moi, je l'ai beaucoup regardé du côté des États-Unis, puisque je crois que c'est une personne qui était une égérie du jus d'orange à la fin des années 60 et qui est devenue une égérie républicaine. Donc, elle faisait des pubs pour le jus d'orange, elle est devenue une égérie républicaine, s'appelait Phyllis Schlafly, si je dis pas de bêtises. Phyllis Schlafly, elle a commencé sa carrière en s'en prenant au professeur gay, on était juste après 68, au professeur gay qui enseignait dans les écoles, en disant vos enfants vont être menacés par des professeurs gays. Ça veut dire quoi? Voilà. Et derrière, elle a centré cette question des enfants à un moment où en fait les droits LGBT, enfin en gros il y avait une expression des voix LGBT.
Stonewall.
Voilà, et je crois que c'est même un peu plus tardif, il faudrait vérifier les années 70. Et du coup, elle a décidé, et c'était finalement intelligent comme intuition, que plutôt que de s'en prendre aux personnes dont les droits commençaient à peine à être évoqués et reconnus avec une reconnaissance politique, il fallait mieux s'attaquer au fait que les enfants pourraient être contaminés. Parce que là, il y avait une prise, peut-être, qui pouvait plus parler au grand public. Et donc, c'est une vraie stratégie. Et cette stratégie, elle n'a cessé d'être déclinée d'abord par le Parti républicain américain, qui d'ailleurs a utilisé évidemment le VIH/SIDA pour accréditer cette thèse de la contagion, elle n'a cessé d'être après déclinée comme une sorte de manuel à ce à quoi on assiste aujourd'hui. Donc, faut pas du tout penser que ce qui se passe avec ces deux personnes, c'est uniquement en France, en réalité. Et voilà, et vous voyez bien que ce qu'on appelle les TERF, évidemment, c'est au-delà, voilà, et que y compris d'ailleurs au sein du mouvement LGBT, il y a des gens qui décident qu'il y aura pas le T dans cette alliance-là. Et donc, c'est en réalité une offensive tout à fait. D'ailleurs, c'est ce qui se passe en France avec cette proposition de loi de tout cibler sur les enfants, parce que se dit pour plein de gens.
Voilà, c'est, on entre dans une zone complexe là où on se dit oh là là, ils vont très loin parce qu'ils vont s'en prendre aux enfants. Et donc c'est important sur tous ces sujets de bien expliquer, comme on l'a fait sur Mediapart dans cette enquête réalisée par David Perrotin et Mathilde Mathieu, que la loi qui est proposée par les Républicains au Sénat, elle repose sur des prémices scientifiques faux, introduit l'idée d'une panique et que tous les enfants vont changer de genre, etc. C'est pas du tout ça, ça répond à un besoin médical pour des enfants qui sinon seraient en grande difficulté en termes de santé mentale, puisqu'ils ne seraient tout simplement pas, et elles ne seraient tout simplement pas, qui ils et elles sont.
Oui, et puis les bloqueurs de puberté, en plus, ça concerne une minorité de ces enfants, enfin de ces adolescents.
Il faut comprendre qu'aux États-Unis, par exemple, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, il a fait toute sa carrière politique des dernières années sur la question des livres qu'on enseigne à l'école, les livres sur le racisme qu'il voulait enlever et sur les enfants trans. Bon, en réalité, tous les parents d'enfants trans quittent la Floride. En réalité, il y a eu des études qui ont tenté de chiffrer le phénomène aux États-Unis. Et on parle, en fait, on crée des paniques morales pour quelques dizaines de milliers, centaines de milliers de personnes qui ne demandent juste qu'à vivre leur vie et qu'on leur foute la paix, en fait.
Ouais. Et on peut faire le lien aussi avec la stratégie du RN, en fait, qui est récemment, enfin, je sais que le 6 février, à la commission des affaires culturelles et scolaires, enfin de l'école, il y a une députée qui a dit à propos du projet de programme d'éducation à la sexualité, laissez nos enfants tranquilles.
C'est la logique de la théorie du genre et voilà.
Et puis on parle beaucoup de l'extrême droite, mais récemment on a vu, alors sur la Rainbow Map, qui est une map qui cartographie l'état de l'avancement des droits LGBTQIA+, pas que en France, hein, dans plein de pays du monde. Et alors la France, elle était à la 13e place, et elle a perdu 3 places en un an, et 8 places depuis que Emmanuel Macron est président. Ce qu'on constate donc, c'est qu'il n'y a pas besoin d'un gouvernement ouvertement LGBTphobe pour que les conditions de vie des LGBTQIA+, s'aggravent. Et ça, c'est aussi le cas dans plein d'autres pays dans le monde qui reculent aussi sur leur classement. Quels sont les constats que vous faites sur le traitement politique ou peut-être l'absence de traitement politique des LGBTQIA+, phobies ?
Il n'y en a pas.
Ah ouais.
Voilà, il n'y en a pas, c'est-à-dire que il y a des agressions homophobes tous les jours, il n'y a même pas un tweet des ministres concernés pour les déplorer. Il y a une non prise en charge politique de ces questions-là en réalité. C'est-à-dire que on a même fait à Mediapart des enquêtes pour dire comment Gabriel Attal avait traité, quand il était ministre de l'Éducation, les quelques mois où il a été ministre de l'Éducation, l'affaire du jeune Lucas, qui s'est suicidé. Ça n'a pas du tout été bien traité par Gabriel Attal, qui pourtant...
Ça n'a pas du tout été traité,
ça
n'a
pas
en fait.
Été traité. Ouais. Donc vraiment, moi, encore une fois, en faisant ce documentaire, ce qui m'a étonné, c'était... En fait, globalement, ils savent pas trop quoi en faire, quoi. Ils savent pas trop quel propos avoir. Aurore Berger, qui est aujourd'hui ministre, c'est ça, chargée de l'égalité homme-femme, et donc de ce dossier de discrimination LGBT-phobe, dans un passé récent, a reçu les deux personnes dont on parlait avant, qui sont les autrices de ce livre Transmania. Voilà, donc en fait, soit ils s'en foutent, soit pire en fait, en réalité. Et quand on voit que ce gouvernement, il a été aussi pas mal rempli de gens qui avaient soutenu la manif pour tous, comme Catherine Vautrin par exemple, Gérald Darmanin, Caroline Cayeux, éphémère ministre, qui a parlé de ces gens-là pour parler des homosexuels. Voilà, en fait, en réalité, vous n'entendez pas de discours... Et d'ailleurs, finalement, c'est comme si, depuis que Gabriel Attal a été nommé, écoutez, la preuve, regardez, tout va mieux, on a un Premier ministre homosexuel. Si c'est ça le seul discours qui peut être tenu politique sur l'existence et la persistance des LGBT-phobies, oui, c'est un problème.
Face à cette posture, cette absence de réponse qui aggrave en réalité, enfin qui est complètement coupable de l'aggravation des conditions de vie, enfin des conditions de la communauté LGBTQIA+, il y a une vraie réponse dans la rue. Il y a une réponse qui a été initiée par divers collectifs, du Pain et des Roses, les Invertis, des militants et des militantes trans. Et ça a été le premier acte d'une réponse qui s'est organisée très très rapidement, que moi j'ai trouvé complètement impressionnante et qui n'est pas du tout terminée, qui a réussi déjà à faire le lien avec plein d'autres luttes et qui continue. Alors le 17 mai, alors on enregistre, c'est demain, mais je vais parier sur le fait que ça va être une réussite. Donc le 17 mai qui a merveilleusement bien réussi, et puis il y aura aussi le 25, les marches des fiertés. Comment t'as perçu cette capacité à donner une réponse, en fait, à faire une espèce de contre-offensive?
Bah, moi, je pense que c'est très important et je la salue totalement. Et j'étais à cette manifestation. J'étais à Marseille pour la manifestation pour la défense des droits des personnes trans et contre l'extrême droite. Parce que, en fait, en réalité, c'est ça aussi le cœur des choses. Contre l'extrême droite, si contre la bêtise, contre l'ignorance. Je veux dire, c'est
la banalité du mal.
Oui, voilà. Non, mais c'est super important que ces mobilisations s'organisent. Je crois que beaucoup de gens ont compris qu'on était dans un moment politique très compliqué, où on ne peut pas accepter de se laisser diviser. Je veux dire, quand on est dans une sorte de camp de la justice sociale, etc. Enfin voilà, je parle même pas de parti là, ou je parle de façon large. On ne peut pas accepter de les laisser nous diviser d'une certaine façon, parce que de les laisser nous diviser, oui. Voilà, c'est ça. Parce que on peut commencer à prendre, vous voyez, des petits bouts de gens avec qui on a l'habitude de militer ou pas forcément, des gens qu'on croise, qui se battent pour différents sujets, sur les libertés publiques, pour la justice sociale, contre les inégalités, on peut prendre ces gens petit bout par petit bout en disant, eux, on va pas venir les défendre. Et donc, on gagne comme ça, et on réduit l'espace de nos libertés et de notre démocratie. Au contraire, je pense qu'il faut faire front commun, et ça, je suis d'accord avec vous que ça concerne des luttes très larges, ça concerne des luttes pour la justice sociale, pour les libertés publiques, pour la décence et la dignité, les migrants, les exilés, ça concerne ce qui se passe aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, ça concerne ce qui se passe autour du conflit israélo-palestinien. Voilà, ce sont des questions que tout ça est connecté, parce que si on accepte de se dire, en fait, c'est pas grave, on peut s'en prendre aux autres, mais moi je suis tranquille, en fait ça ne se passera pas. On est à 3 ans d'une élection présidentielle qui est celle de tous les dangers, et au-delà, on a des groupes fachos dans la rue tous les jours, et donc voilà, le danger il est là, il est réel.
Et donc, pour se documenter sur toutes ces luttes et tous ces dangers, on peut s'abonner à Mediapart. On va marquer une pause et écouter Trans Day of Revenge et ensuite reprendre le cours de nos propos.
Revenge! Revenge! Revenge!
Patron's Day of Revenge de Gloss. Vous êtes bien sur Radio Alpa 107.3, vous écoutez Intersection en escalpade. Et pour finir ce plateau avec Mathieu Magnodex, il y avait une chose qu'on voulait discuter avec toi, c'était la question de... Alors t'as écrit un article au début de l'année, au moment de la nomination de Gabriel Attal, qui s'intitulait un ministre gay mais pas trop. Moi déjà pendant le mouvement social, pendant le mouvement sur les retraites, ça m'avait un peu interrogé, ces coming out à répétition venant de la Macronie, Clément Beaune, Riester, Dussopt, Sarah Elaïry,
Sarah Elaïry,
ouais, c'est ça. Bon, alors là, c'est effectivement du pinkwashing, une manière d'instrumentaliser en fait son coming out.
Alors, moi, je sais pas, je pense que d'abord...
Non, tu dirais pas ça.
Cette série vient du fait que, d'abord, pendant longtemps, en politique, il a été littéralement impossible de dire ça.
Ouais.
Donc en fait, au moment où ça devient un peu plus possible, beaucoup de gens, après on met les stratégies des uns et des autres, après je pense qu'il y a une forme de sincérité aussi chez certains et tout là-dedans quand même, il a été très difficile de dire ça, tout simplement parce que vous deviez vivre au placard complètement. C'est-à-dire qu'en fait, c'était impossible de prendre des responsabilités politiques, de monter dans un parti si vous disiez que vous étiez gay ou lesbienne. Certains l'ont fait. Françoise Gaspard l'a fait il y a très longtemps et d'autres élus l'ont fait, mais ils étaient très très minoritaires. Moi je me rappelle en 2015, donc après le mariage des couples de même sexe, au moment d'une Pride, j'ai essayé de faire un article sur la difficulté des politiques à dire. D'ailleurs pour cet article, j'avais beaucoup discuté avec celui qui est l'ancien ministre du Travail, Olivier Dussopt, dont je connaissais l'homosexualité tout simplement parce qu'il en parlait assez naturellement quand moi j'étais journaliste à l'Assemblée nationale au moment du mariage des couples de même sexe, et c'était impossible pour lui de le dire. Et dans ses arguments, il y avait l'idée que c'était peut-être compliqué du côté de sa famille, mais c'est aussi que c'était risqué. Et donc ça, je pense que c'était vrai, voilà. Et donc c'est plutôt que d'abord on a vécu avec une image incroyable d'une représentation politique qui n'aurait pas été à l'image de la société, finalement, où il y avait des gays, des lesbiennes, etc. Donc c'est ça d'abord l'anomalie, et la France a été en retard par rapport à ça, et donc pendant longtemps déjà ce truc là a été très important, et donc là une petite fenêtre s'est ouverte, et donc ça devient moins compliqué de le dire, voilà.
Et donc on arrive à Gabriel Attal, le premier ministre ouvertement gay. Et donc toi, tu fais un article sur...
Oui, en fait, cet article, Gay mais pas trop, qui a beaucoup tourné, qui a été critiqué, qui a été parfois, je dirais pas mal compris, mais qui a provoqué une discussion et un débat, et c'est très bien.
Et qui fonctionne, du coup.
Non, parce que de fait, c'était... Moi, mon idée, c'était de dire que... c'est une chose de dire son homosexualité, et quelque part on peut se dire que oui, on peut noter, et finalement c'est intéressant à noter que pour la première fois le Premier ministre est homosexuel, en tout cas homosexuel out. Voilà,
c'est
et en tout cas
problème.
Voilà, pour la première fois un haut responsable de l'État est out, bon. Et à un poste de décision aussi élevé que celui de Premier ministre. Et donc, ce n'est pas anodin et ça se remarque. Et c'était, voilà. Mais après, quand on a dit ça, il faut aussi se dire, d'accord, mais qu'est-ce que...
Ça dit politiquement.
Oui, c'est-à-dire comment, en gros, Gabriel Attal, comme d'autres, reste dans une idée où finalement cette homosexualité, elle parlerait d'elle-même d'une certaine façon, elle le placerait dans une forme de progressisme naturel, et donc il n'y aurait, voilà, de ce côté-là c'est bon, c'est fait, vous ouais. Savez où je me situe, donc je suis forcément contre l'extrême droite, donc je suis forcément quelqu'un qui est progressiste, quelqu'un qui est voilà, et là je parle de quelqu'un qui est donc du camp macroniste, parce qu'il y a des gays d'extrême droite aussi, on y viendra après, mais mais du coup là c'est finalement une sorte de placer une sorte de positionnement politique naturel, voilà. Mais par contre, Gabriel Attal ne parle très peu des sujets qui concernent les communautés, les communautés LGBT.
Et il ne s'exprime pas.
Comme d'autres élus, je pense à des sénateurs, des élus écologistes ou des élus d'autres élus de gauche, gays ou lesbiennes, qui défendent aussi, en défendant plein d'autres textes et plein d'autres lois, mais qui utilisent finalement le savoir, la compétence, l'expérience qu'ils ont, une expérience personnelle et communautaire, pour essayer d'améliorer la vie des personnes concernées. Et même d'ailleurs de l'ensemble de la société, parce que quand on gagne plus de droits pour certains, on gagne plus de droits pour tout le monde, en fait. Et donc, il n'est pas suspect d'une certaine façon dans notre système français très universaliste d'être celui qui voudrait le déminer avec des revendications minoritaires, qu'elles soient LGBT ou qu'elles soient d'autres natures. Et donc, mon article se termine comme ça en disant à ces conditions-là, alors les portes du pouvoir lui sont ouvertes. Mais à l'inverse, voilà, beaucoup de, on voit bien que et là encore. On revient au réel de la société, dans plein d'entreprises, dans plein de sociétés, dans plein de contextes professionnels, dans plein de familles, évidemment, mais se dire aujourd'hui gay ou lesbienne, c'est risquer des choses encore aujourd'hui. Et donc, quelque part, il a ce privilège qu'il ne risque pas ça. Voilà. Et ça n'empêche pas d'ailleurs qu'il y a eu des manifestations d'homophobie très fortes quand il a été nommé sur les réseaux sociaux, qui sont franchement dégueulasses.
On va terminer, il nous reste 3 minutes, sur le RN. Le RN, donc t'en as parlé, il y a eu un autre article qui s'intitulait Une façade gay-friendly, mais au fond il y a toujours de l'homophobie. C'était pas ça le titre, mais c'était un article du 14 janvier. Et effectivement, c'est saisissant dans l'article. Selon les sources de Tétu, il y aurait 25 députés gays sur 89. C'est quand même énorme. Ça fait quasiment un tiers. Enfin, ça fait un tiers, je crois. Et comment on peut expliquer cette espèce de contradiction entre LGBTI-phobe et puis cette réalité?
En fait, je pense que d'ailleurs, ces personnes directement concernées, ces personnes homosexuelles au sein du RN, pour le coup, ne vont pas tenir en soi de discours proprement LGBTI-phobe, et bien sûr, heureusement, puisque voilà. Mais je pense que là, pour le coup, la grille de lecture est assez simple. Je pense que c'est ce que disait en gros cet article, c'est que ces élus-là ont le sentiment que, ils ont quand même globalement le sentiment que en tant que Français blancs, ils sont menacés, et donc par l'immigration, par les musulmans, par et donc ils ont aussi le sentiment que, en fait, finalement, ils associent le fait d'être gay à ça, en disant, voilà, en tant que Français gay, ce sont les musulmans qui nous attaquent, etc. Or, je voudrais quand même dire, dans le documentaire, évidemment, on n'a pas de statistiques, les statistiques ethniques, ça n'existe pas en France, et de toute façon, il n'y a pas de statistiques du tout sur les guet-apens. Mais on a croisé beaucoup de cas où, contrairement à ce que raconte l'extrême droite, les agresseurs ne sont pas toujours et systématiquement des personnes issues des quartiers populaires et racisées. Ça arrive, oui, ça arrive, parce que c'est la réalité de la société. La société, elle est multiple, elle est diverse, et souvent les agresseurs, ils sont de quartiers populaires, parce que parfois il s'agit aussi de voler la personne. Ça se mêle parfois avec des formes de petite délinquance, ce qui n'empêche pas les insultes homophobes et ce qui voilà qui vient avec. Mais il y a plein de dossiers qui ne sont pas de cette nature-là. Donc en fait, notre documentaire, il sert aussi à montrer ça, à montrer que, comme le dit Mathieu Fouché dans le documentaire, le militant et journaliste Mathieu Fouché, en réalité, l'homophobie, elle est partout, elle est protéiforme, elle est dans toutes ces sociétés, et comme quand elle n'est pas chez les agresseurs, elle est parfois chez les politiques, elle est parfois chez ceux qui tiennent des discours transphobes, qui gèrent le débat public, qui ont la voix, qui ont la parole, mais dont la violence n'est pas moindre. Voilà, donc c'est aussi ça qu'on voulait montrer et dire, et que je tiens à dire là.
Eh ben, nous, on tient à te remercier d'être venu ici, d'avoir fait aussi Guet-apens. Enfin, vraiment, je crois que c'est un truc super important. Et donc, on va clore cette escalade et puis aller rejoindre le public pour débriefer le documentaire. Merci Romain.
Merci Bertrand.
Merci Tiffaine. Et puis à bientôt. On rappelle Intersection le mercredi de 13h à 13h30 et Radio Alpa 107.3, la meilleure radio.